Il est 8h30. Voici la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. C'est quoi au juste le culot ? Cette question, c'est le titre de l'éditorial du dernier numéro du mensuel Management. Un édito du rédacteur en chef du magazine et sa prose se lit très rapidement. Il écrit simplement, c'est ça. Rien en dessous, fin de l'édito. Cela dit, il y a tout de même une explication en bas de page. Le journaliste justifie sa réponse laconique. C'est quoi au juste le culot ? Réponse, le culot, c'est ça. Rien en dessous, fin de l'édito, bien sûr, admet-il. On peut qualifier cette réponse de solution de facilité, mais avouez que vous avez tous rêvé de répondre ainsi à une dissertation pendant vos études, non ? Car c'est aussi cela le culot, s'autoriser à faire ce qui ne se fait pas d'habitude, bousculer la routine, changer les règles du jeu, ou bien, pour le dire en un mot, tout simplement oser. Et ce que détaille le dossier du mensuel, c'est cela, dans la vie et surtout dans son métier, il faut oser tenter sa chance, croire en sa chance et croire en soi, oser demander des rendez-vous, oser proposer des idées, oser dire qu'on est le meilleur aussi. Même si évidemment ça ne peut pas marcher à tous les coups, le culot, nous dit-on, bien souvent ça paie.
Et ça paie également dans le monde politique.
Photo de deux hommes qui ne manquent pas de culot à la une de Politis. Pablo Iglesias et Jean-Luc Mélenchon. Et cette question, le populisme peut-il sauver la gauche ? Pablo Iglesias, c'est bien sûr le leader du mouvement Podemos en Espagne pour Mehdi Boudaren. Il a su casser tous les codes de la communication politique et il imprime un style populiste qui navigue entre l'impertinence et la séduction, un style différent de celui de Jean-Luc Mélenchon, mais lui aussi, si l'on en croit l'hebdomadaire, mérite le terme de populiste, dans le sens où c'est au peuple qu'il s'adresse, le peuple et les gens contre la caste qu'il faut dégager, le peuple est en colère et il répond à leur colère, trop de Français ne votent plus et il entend les réveiller, c'est Pauline Grohl qui analyse le succès de son positionnement, d'un côté donc le dégagisme et de l'autre l'instauration d'un leader charismatique. Et sa paix, disions-nous, sa paix, tant que Jean-Luc Mélenchon, pourtant actuellement en voyage sur l'île de la Réunion, et semble-t-il dans toutes les têtes à la fête de l'humanité ce week-end à la Courneuve, c'est ce que nous explique ce matin Libération, mais également Quentin Laurent dans Aujourd'hui le Parisien, le Parti communiste veut faire de la fête de l'humain un grand rassemblement anti-Macron. Mais le parti doit surtout réussir à se transformer et il est menacé par la concurrence des insoumis. On a été ringardisé par la France insoumise, reconnaît-on dans les instances du PCF. Nombre de ses électeurs ont d'ailleurs définitivement migré chez Mélenchon et certains se questionnaient sur un changement d'appellation. Le sujet n'est plus tabou, le mot communisme est encore un repère pour une partie des électeurs, mais pour d'autres, il agit comme un repoussoir. Bientôt, au PC, il se pourrait donc qu'on ait le culot de changer de nom. Mais la persévérance peut payer également. Deux sujets peuvent venir l'illustrer ce matin.
Oui, à commencer par le prochain retour en France du journaliste Lou Bureau.
C'est l'info à la une de Presse Océan. Lou Bureau libéré. Le jeune journaliste d'origine nantaise était détenu en Turquie depuis plus de 50 jours. Et on a donc appris hier qu'il serait expulsé. Il est attendu ce soir à Paris. Et même s'il reste encore plus de 170 journalistes emprisonnés aujourd'hui en Turquie, évidemment, c'est une bonne nouvelle, cette libération. Une libération qui rétablit dans sa dignité un reporter embastillé sans raison par le régime d'Erdogan, écrit Hervé Chabot dans l'Union. Et cela confirme, poursuit-il, qu'il faut être persévérant, persévérer dans le dialogue, même quand il paraît impossible et même quand l'interlocuteur semble n'avoir plus aucune notion de ce qu'est la démocratie. La persévérance paie, c'est aussi ce qu'on se dit à la lecture du sujet en une du Parisien, la victoire des malades de la thyroïde. Hier, sur l'antenne de France Inter, la ministre de la Santé a annoncé le retour provisoire de l'ancienne formule du lévothyrox, une décision très attendue par ceux qui souffraient des effets secondaires de sa dernière version. Le lévothyrox est l'un des médicaments les plus vendus en France et les malades se disent soulagés, indique le courrier Picard. Victoire et soulagement, résume la Voix du Nord. Les patients ont donc été entendus. Et pour le président de France, Asso Santé, il le dit dans le Parisien, c'est la première fois que la pression des malades fait plier aussi rapidement les autorités. On va faire revenir des produits que l'on avait sortis du marché. On a rarement vu cela, se félicite-t-il en pointant la force des réseaux sociaux qui diffusent à grande ampleur les pétitions en ligne. Désormais, explique-t-il, les alertes se propagent très vite et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. L'implication des patients dans leur traitement, leur besoin légitime d'information ne pourra plus ne pas être prise en compte. Je suis persuadé, conclut-il, qu'en termes de gestion, il y aura un avant et un après les Votirox.
Des victoires, des soulagements donc dans les journaux ce matin, mais aussi ça et là, de fortes inquiétudes.
Inquiétudes face à la prolifération nucléaire en Corée du Nord. C'est la une du Monde. Il y a quelques heures, Kim Jong-un a déclaré que son pays était proche de détenir l'arme atomique, et ce malgré les sanctions internationales. Son objectif, dit-il, est de parvenir à un équilibre des forces avec les États-Unis. Le leader nord-coréen ne manque pas de culot. Inquiétude toujours et encore pour les Rohingyas qui fuient la Birmanie. C'est toujours à lire dans Le Monde le récit d'une épuration ethnique avec des enfants qui racontent, des soldats qui brûlent leur maison, qui tuent leurs voisins et parfois même qui égorgent leurs parents sous leurs yeux. Dès lors, on peut retrouver un peu de légèreté à la lecture d'articles célébrant les deux anniversaires du jour. Deux anniversaires, les 40 ans de la naissance de Téléfoot sur TF1. Dossier dans le magazine L'Équipe où l'on apprend que si le foot a beaucoup fait pour l'émission, évidemment, elle est consacrée au football, eh bien l'émission a aussi beaucoup fait pour le football en le rendant chaque semaine toujours plus populaire, et ce depuis 40 ans. Autre anniversaire, 40 ans là encore, mais on quitte le football, les 40 ans de la mort de la diva Maria Callas. Très joli portrait de cette grande tragédienne, c'est à lire dans Télérama. Enfin, autre portrait, celui de Nicolas Demorand, c'est à la une des Inrecuptibles. Une enquête sur la voix la plus puissante de l'Hexagone, c'est le titre à la une. Il faisait le 18-20 l'an dernier, il retrouve la matinale ce matin, commentaire de son camarade et notre camarade Michael Thébault. Le 18-20, c'est un bon pétard. La matinale, c'est plutôt une ligne de coke. Un commentaire, Eric ?
Mais c'est qu'il a du coffre, notre Nicolas Demorand.
Laissez-en un peu à Patricia.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier. À demain.